Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Et quand vous faites moindre de personnalité, on s'immiscera dans vos affaires intérieures. On parlera de droits de l'homme. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais combien d'années nous avons passé dans le carcan de la domination étrangère? On nous arrêtait, on nous fusillait, on nous emprisonnait, on nous licenciait sans indemnité. Quand nous étions accidentés, on nous foutait à la porte sans récompense. Et on ne parlait pas à ce moment de droits de l'homme, n'est-ce pas?
Le leader qui, 12 ans plus tôt, obtenait l'indépendance de la Guinée avant tous les autres territoires sous domination française est en colère. Très en colère. L'indépendance obtenue dans la précipitation qui a séduit l'Afrique noire entière, suscitant l'opposition, l'ire de la France, est en train de tourner au cauchemar. Après un départ précipité, l'ancien colonisateur qui est parti en emportant tout jusqu'aux fils électriques et qui s'emploie à fragiliser l'économie de la jeune nation pour la punir de son insolence, est parvenu à rendre Ahmed Sékou Touré quasi paranoïaque. Il voit désormais des complots partout. Il faut dire qu'il y en a des vrais, mais également des supposés.
Le colonialisme, le néocolonialisme, le sionisme et le racisme, honneur, pouvoir, gloire, victoire, fidélité.
En 1960,
vive la production.
Le complot Ibrahima, Diallo, inspecteur du travail.
Révolution.
En 1961, le complot des Anciens avec Koumandia, Réoutra, Tamsir Nian, Baïbram Kaba, Montaga, etc. En 1965, le complot des commerçants qu'on appelle le complot de Petit Touré avec Jean Fargué, ex-membre du BPN. En 1969, complot Kaman, complot des militaires avec Kaman, Feleba Keita, Karim Fofana.
Cette fois, en ce mois de novembre 1970, la menace est réelle. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée aux 60 ans d'indépendance de la Guinée. Depuis le 22 novembre, des mercenaires portugais sont dans la ville. Ils sont arrivés de nuit, par la mer, à la recherche de leurs compatriotes, détenus par l'opposition bissau-guinéenne, le PAIGC d'Amilcar Cabral en exil à Conakry. Avec eux, des opposants guinéens. Pendant une semaine, la ville retient son souffle.
J'ai été réveillé par les balles, comme tous les Guinéens. Dieu n'a pas aidé les traîtres. De telle sorte parce qu'ils nous ont surpris.
Lansana Sako, ancien ambassadeur de Guinée.
Ils n'étaient pas attendus, si. Ils étaient attendus par des traîtres guinéens. Parce que toutes les preuves ont été établies que même les bateaux étaient guidés, téléguidés, à partir de la terre ferme par les complices qui étaient là.
Certaines personnes m'ont affirmé...
Alpha Abdoulaye Diallo, ancien ministre de Sékou Touré.
...que c'était avec l'aval de Sékou Touré. Ce qui est sûr, c'est que Sékou Touré était au courant. Parce que dans son discours du 2 octobre 70, il en avait fait état. Mais les Portugais l'ont trahi. Ils sont venus avec des mercenaires guinéens. Au passage, ils ont bombardé la maison de Cabral, croyant que Cabral était là. Ils sont allés, seconde trahison, à la case de Bellevue qu'ils ont bombardée de façon intensive, à coups de bazooka, croyant que Sékou Touré était là.
Cette fois, la menace est réelle. Sékou Touré adresse un message sur les ondes de la Voix de la Révolution, la radio nationale.
Des centaines et des centaines de mercenaires sont dans la ville. Nous faisons appel à tous les patriotes pour que l'ennemi soit écrasé, définitivement écrasé.
Le camarade président va se sortir de ce mauvais pas. Les assaillants, bissau-guinéens repartis, les opposants sont arrêtés et exécutés. Le calme revient dans la ville. Kadiatou Diallo Touré, enseignante et militante de la Révolution.
On servait effectivement de symbole de l'indépendance africaine, mais tout d'un coup, on n'a rien compris. Le fil en aiguille, il a commencé d'abord à décrocher la photo de Saïf Lai en disant, parce qu'on faisait, on mettait les deux, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Il dit qu'il y a un seul président en Guinée. On a décroché cette photo.
À l'agression portugaise fait suite la plus importante vague d'arrestations connue en Guinée. C'est le début d'un exode massif des nationaux qui quittent le pays. On comptera près de 2 millions de Guinéens à l'étranger. Après un jugement sommaire, le plus souvent sur simple dénonciation, les accusés sont amenés au tristement célèbre camp Boiro, la prison située en plein cœur de Conakry. Lamine Camara dit Kapi fait partie des rares Guinéens qui ont survécu à ce camp.
Mais je suis l'un des rares Guinéens à avoir fait deux fois le camp Boiro. En 1961 déjà, au complot des enseignants de Koumandian qui étaient à Baïbrahima Kabra, Djibril Tamsir Niane, donc c'était le, disons, le complot, on a appelé complot des enseignants, mais c'était des revendications sur le statut des enseignants et des revendications salariales pour lesquelles on avait donc arrêté ces enseignants. Mm-hmm. Et nous, à l'époque, on avait fait un mouvement de protestation pour demander à ce qu'on libère nos maîtres.
Et donc on vous a arrêté.
J'ai été arrêté.
C'était,
là,
c'était la première fois.
C'était la première fois. Donc j'avais fait le camp Boiro déjà.
Et donc là, quand vous revenez cette fois-ci,
je n'avais pas 21 ans. Mm-hmm. Et j'avais déjà subi 4 jours de diète. Et on m'avait déjà mis la même machine. Mais j'avais pensé qu'on ne m'y reprendrait plus, parce que même les manifestations, j'allais les éviter. Mais je pensais qu'il suffisait d'être sincère, d'être un homme tout à fait normal pour ne pas y aller. Donc 10 ans après, presque jour pour jour, je me suis retrouvé là, avec des conditions de...
Alors là, on vous garde combien de temps ?
7 ans.
Vous restez 7 ans pour cette deuxième fois ?
7 ans, cette deuxième fois. Mm-hmm. Et les 7 ans dans les pires conditions, parce que les 4 premiers mois, nous ne nous sommes pas lavés une seule fois.
4 mois sans se laver ?
4 mois sans se laver, on couchait même le sol. C'était des cabines donc de militaires, avec la tôle ondulée, galvanisé, il n'y avait pas de plafond, rien. Mm-hmm. Donc avec la chaleur, parce que c'est la partie chaude, Cancan, Sigiri, c'est la partie chaude de la Guinée. Mm-hmm. Avec la chaleur et la sueur, alors on puait et en même temps, on avait des poux à la fois dans les cheveux pour ceux qui avaient des barbes. Moi, je n'en avais pas à l'époque puisque j'étais jeune et puis je suis du genre imberbe. Mm-hmm. Alors, donc, 4 mois comme ça sans se laver, on avait des poux partout. Il y en a qui commençaient à avoir la gale. Il y en a qui sont morts de ça un peu.
Après, de la gale dans la prison.
Le choléra est venu s'ajouter à ça. Et beaucoup, à la prison de Cancan, sont morts comme ça.
Combien de gens y ont été incarcérés ? Plusieurs milliers probablement. Personne ne connaît véritablement le nombre exact de ceux qui sont allés au camp Boiro. Beaucoup n'en sont jamais sortis. Et ceux qui y ont réchappé s'en souviennent avec effroi. Alpha Abdoulaye Diallo.
Quand vous arrivez au camp Boiro, on vous met à la diète qu'on appelle diète d'accueil. La diète d'accueil, c'est-à-dire vous restez, on vous enferme dans une cellule où vous restez, si vous avez la chance, 3 jours sans manger, sans boire, et on commence votre interrogatoire au bout du 3e jour. La diète noire, elle, c'est on vous enferme jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça qu'on appelle la diète noire, l'ADN. On m'a dit que je suis de la CIA, du 2e bureau français, de l'intelligence service, du réseau SS nazi, du front de libération de la Guinée qui veut libérer la Guinée de sa liberté, etc. Il y a une batterie avec des lobes, on vous met aux parties sensibles du corps et on tourne. Alors ça fait des décharges électriques sur la personne. C'est horrible, c'est extrêmement horrible.
Les tortures infligées dans le camp Boiro suscitent l'indignation dans le monde. Les quelques dizaines de prisonniers blancs ainsi que les Françaises qui plaident à Paris en faveur de leurs époux guinéens disparus achèvent de ternir l'image du pays et de son leader. Le président Sékou Touré demande qu'on lui remette les Guinéens condamnés par contumace à l'étranger. Nabi Youla, ambassadeur de Guinée en France, puis en Allemagne fédérale, est un de ceux-là.
Il s'est passé la chose suivante, c'est que je n'avais pas foi dans le communisme. Il savait. Et quand il m'a affecté en Yougoslavie, j'ai envoyé un message, un télégramme, et je suis parti.
Si pour les Occidentaux, qui dénoncent les multiples violations des droits de l'homme, Sékou Touré est un tyran infréquentable, en Afrique, dans le même temps, il bénéficie toujours d'une grande notoriété et du respect de ses pairs. Il est de tous les grands rendez-vous continentaux. Son avis compte dans les grands conflits qui divisent l'Afrique en cette période de guerre froide. Sékou Touré, qui avec quelques homologues africains rêve désormais de l'unité africaine, va demander à son ambassadeur auprès des Nations Unies, qui bénéficie d'un important carnet d'adresses et d'une solide expérience dans la diplomatie, de l'aider dans la préparation de la conférence qui marquera l'avènement de l'institution africaine. Il s'appelle Diallo Telli. Commence alors le périple africain qu'il va effectuer dès 1963 à travers l'Afrique. Diallo Telli parcourt le continent avec Sékou Touré. Le but est de réduire les dissensions, les virulentes oppositions entre les groupes dits de Casablanca, c'est-à-dire les révolutionnaires, et celui de Monrovia, les modérés. Il faut les amener à une position commune sur la question du panafricanisme. Le 25 mai 1963, l'objectif est atteint. Les chefs d'État réunis à Addis Ababa en Éthiopie signent la charte fondatrice de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine. Le monde entier enregistre pour la première fois une victoire de la volonté unitaire des peuples africains. À Addis Ababa, 30 pays sont représentés, dont 27 par leur chef d'État. L'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie exulte.
Les ennemis de l'Afrique prient désormais. Ils sont en train de prier pour l'échec de cette conférence. Les peuples d'Afrique prient également. Ils prient pour le triomphe du panafricanisme, le triomphe du régionalisme et du nationalisme. Ils prient spécifiquement pour le triomphe de tous les groupes, celui de Monrovia, celui de Casablanca et tous les autres.
À cette conférence constitutive où la charte est adoptée, l'on va même voter les premières résolutions concernant la lutte contre l'apartheid et celle des mouvements de libération dans les colonies portugaises. Il faut maintenant chercher un secrétaire général, un éminent diplomate doublé de qualité de juriste et d'homme de culture. Sékou Touré, tout encore auréolé de son fameux nom au général de Gaulle, mais aussi du rôle qu'il a joué dans la création de cette organisation, voit son demi-frère Ismaël Touré à ce poste. Mais ses pairs ne sont pas du tout de cet avis. Il n'a pas la stature. Nombre de pays francophones appuient plutôt la candidature d'un autre intellectuel, le daroméen Émile Derlin-Zinsou. Mais certains l'accusent d'être pro-israélien. Ce qui provoque des réactions négatives de pays francophones arabes tels la Mauritanie qui auraient pu voter pour lui. C'est finalement au deuxième conseil des ministres tenu en juillet 1964 au Caire que Diallo Telli est finalement élu secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
C'est l'empereur Haïlé Sélassié invite M. Diallo Telli à monter à la tribune pendant que le vice-président demande à l'Assemblée d'écouter la prestation de serment du secrétaire général.
Moi, Diallo Telli Boubacar, je jure solennellement d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine. De m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation de l'Unité Africaine, sans solliciter ni accepter dans l'accomplissement de mes devoirs d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Je le jure.
Pour le juriste devenu par la force des choses diplomate, c'est le début d'une nouvelle ère qui va profondément bouleverser sa vie. Surtout que sa popularité commence à agacer son président. Sékou Touré, qui n'a pas soutenu sa candidature, ne voit pas d'un bon œil l'ascension de ce peul qui a pour ami ses homologues et qui est reçu par les grands de ce monde. Une jalousie qui risque d'être fortement préjudiciable à Diallo Telli. Après un second mandat à la tête de l'Organisation de l'Unité Africaine, Diallo Telli postule pour rester à la tête de l'OUA. Même s'il multiplie les lettres et les gestes pour affirmer sa fidélité au président Sékou Touré, le chef de l'État de Guinée ne lui fait pas confiance. Il se méfie de ce peul qui est finalement plus connu et plus aimé par la communauté internationale et par l'opposition guinéenne de la diaspora. La Guinée refuse donc de lui apporter son soutien pour ce troisième mandat. Au début de la décennie 71, des noms commencent à circuler pour le poste de secrétaire général de l'OUA. Les différents dirigeants commencent à positionner leurs protégés. Diallo Telli entame un périple à travers le continent pour obtenir le soutien des chefs d'État. Mais cette fois-ci, les choses ne semblent pas avancer dans le bon sens. Il faut dire que face aux crises qui ont secoué l'Afrique pendant cette période, Pas mal de présidents qui l'ont aidé au début ne sont plus aux affaires. Au terme de ses 8 ans de mandat, il n'a plus en face de lui que 9 des 32 chefs d'État qui avaient assisté au sommet du Caire où il a été désigné. Ben Bella, son ardent défenseur du début, a été renversé en 1965 en Algérie par Wari Boumdjen. Joseph Kassavubu a été déposé et Mobutu est le nouveau maître du Congo devenu Zaïre. Jean-Bédel Bokassa a pris la place de David Dacko. En haute volta, le général Sangoulé Lamizana a remplacé Maurice Yameogo. L'un des pères prophétiques de l'OUA, Kwame Nkrumah, a été renversé par le général Ankra, au Ghana. Sylvanus Olympio du Togo a été assassiné. Et son successeur, Nicolas Gruneski, a à son tour été remplacé par le lieutenant-colonel Étienne Yadema. Modibo Keïta a été évincé par Moussa Traoré au Mali. En gros, les dirigeants qui doivent choisir le secrétaire général de l'organisation ne sont plus les mêmes qu'en 1964. Diallo Telli, après son tour d'Afrique, commence à comprendre donc, en cette fin d'année 1971, qu'il a peu de chances d'être réélu à la tête de l'Organisation de l'Unité Africaine. Mohamed Sanoun, ancien secrétaire général adjoint de l'OUA.
À l'époque, à ce moment-là, il y a eu un problème concernant le soutien de son propre pays. Il avait un problème au niveau de la Guinée, qui à l'époque, président Sékou Touré, ne considérait que Diallo Telli ne devait pas rester pour un troisième mandat. Enfin, il y a eu en tout cas des tensions dans ce domaine-là. Et il n'y a pas eu mobilisation par la Guinée de ses moyens diplomatiques pour essayer d'assurer sa réélection.
S'interrogeant sur son avenir, Diallo Telli profite à la fin janvier 72 du Conseil de sécurité à Addis Ababa pour faire une démarche personnelle auprès du secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim. Il souhaite obtenir un autre poste international, au sein des Nations Unies par exemple. André Lévin, ancien ambassadeur en Guinée, auteur du tragique destin d'un grand Africain, une biographie officielle de Diallo Telli.
À l'ONU, un poste autre que de secrétaire général, il en avait parlé avec Waldheim, mais il n'y avait pas de place à son niveau pour un Africain autre que les 5 ou 6 qui y étaient déjà. Et pour le poste de secrétaire général, ça aurait été tout à fait possible, mais il aurait fallu que Diallo Telli voie sa candidature entérinée par le sommet qui s'est tenu à l'île Maurice à cette date-là. Il n'était d'ailleurs pas le seul candidat africain. Il y avait le ministre des Affaires étrangères de la Somalie. Mais finalement, au moment du sommet, il n'était pas question que Sékou Touré le laisse aller, le laisse partir. Et finalement, le sommet de l'île Maurice n'a désigné aucun candidat, ce qui laissait en même temps la voie libre à Waldheim pour un deuxième mandat.
Diallo Telli ne se voit pas vraiment revenir en Guinée. Il ne voit pas trop ce qu'il y ferait. Surtout qu'il sait très bien le sentiment de méfiance, voire de haine, que lui voue le président Sékou Touré et son frère Ismaël. Il n'ignore pas non plus les exactions que commet son régime. Le sinistre Camboiro, il en a largement entendu parler. Les crimes et les exécutions massives qui se multiplient dans son pays aussi. 3 jours avant le sommet qui va choisir son successeur à la tête de l'OUA, le président Sékou Touré procède à un important remaniement ministériel. À Addis Ababa, ce sera finalement un membre de la délégation camerounaise que presque personne ne connaissait, Zoé Kangaki, qui va devenir le 14 juin 1972, le nouveau secrétaire général de l'OUA. Le président Amadou Ahidjo a admirablement manœuvré. Diallo Telli est désormais libre. Libre de rentrer dans son pays. Une hypothèse que beaucoup de personnalités lui déconseillent. Ses amis le mettent en garde contre ce qui pourrait lui arriver. Mais Diallo Telli, qui n'a pas obtenu de proposition de la part de toutes les personnalités internationales qu'il connaît, va quand même prendre la décision de retourner au pays en août 1972 avec sa famille. Que lui réserve Sékou Touré une fois qu'il sera sur place? Quelle tournure va prendre la révolution guinéenne? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.
Archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
les leçons de l'histoire ne soient jamais oubliées par nous. Et surtout, par moi, votre suprême serviteur. Nous l'avons déjà dit, le terme responsable suprême, la révolution, est un titre pompeux et aussi honteux pour moi. Le véritable responsable de la révolution, c'est le peuple qui la sécrète, qui l'amène. Et le titre ambitionné, je l'ai toujours indiqué, c'est d'être le suprême serviteur. Je souhaite avoir, grâce à Dieu, cette santé et ce courage nécessaire à accomplir mes devoirs, tous mes devoirs.
14 ans déjà qu'il est le guide de la révolution guinéenne. Mais l'euphorie du début, de l'après-non au référendum proposé par le général de Gaulle, qui a aussitôt précipité l'indépendance de son pays, semble s'être un peu émoussée. La Guinée, en ce début de la décennie 70, traverse une crise à la fois économique, mais également sociale, avec un chef qui voit des complots partout, qui se méfie de tout. Il faut dire que de vraies tentatives, il y en a eu pas mal, mais de faux aussi. Et à chaque fois, les auteurs présumés ont été tués ou enfermés dans le sinistre camp Boiro à Conakry, face à l'hôpital Donka, dans la capitale. Suite de notre série spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. C'est dans cet état sécuritaire où le chef se méfie de tout le monde, où sous la pression des nations occidentales, Sékou Touré a fait face à des multiples complots et soupçonne désormais chaque Guinéen, que Diallo Télé choisit après deux mandats à la tête de l'OUA de revenir au pays. Madame Kadidiatou Diallo Télé, l'épouse du leader.
Personnellement, j'étais opposé à ce retour et beaucoup de personnalités, dont le président Senghor, étaient opposés à ce retour. Et le président Senghor lui a dit: Sékou Touré, tu ne le connais pas, mais moi je le connais. Je te conseille de ne pas rentrer en Guinée. Et le secrétaire général de la CEA à l'époque l'a reçu et lui a demandé de ne pas rentrer en Guinée. Il y a eu beaucoup d'interventions auprès de lui pour qu'il ne rentre pas.
Qui a réussi à le convaincre de partir? Pas Sékou Touré quand même.
Non, ce n'est pas Sékou Touré qui l'a convaincu à partir, mais Diallo Télé était persuadé que il pouvait aider à normaliser les relations de la Guinée avec l'extérieur. Parce qu'il savait que toutes les difficultés de la Guinée dépendaient de son isolement. C'est pour cela qu'il est parti contre nous tous.
Un retour au pays natal qui le met désormais à la disposition du président Sékou Touré. Maintenant, il peut s'occuper de Diallo Télé, qui est maintenant au pays et qui attend ses ordres. Désormais donc déchargé de sa fonction, il est à sa merci. Même si quelques dirigeants ont conseillé à l'ex-chef de la diplomatie africaine de ne pas revenir sur place. Même si à plusieurs reprises Diallo Télé lui a juré sa fidélité, le président guinéen ne le croit pas. Diallo Télé est conscient que son nom a été évoqué dans un de ses complots imaginaires et que les autres personnes citées dans cette tentative croupissent dans le sinistre camp Boiro. D'autres ont simplement été exécutés. On vit vraiment dans un climat de terreur.
Nouvelle exécution aujourd'hui en Guinée. Selon Radio Conakry, capté à Dakar, un condamné à mort a été pendu aujourd'hui dans un village de la Brousse, Jean-Jacques Moria.
Si l'on s'en tient aux informations qui ont un caractère sinon officiel, du moins officieux, 5 condamnés auraient donc été exécutés sur les 58 condamnés à mort. Mais les informations sont toujours aussi limitées lorsqu'il s'agit de la Guinée.
Et c'est par un décret du 21 août portant remaniement du gouvernement de la République de Guinée que Diallo Télé est nommé, à sa grande surprise, ministre de la Justice. Il avait espéré les affaires étrangères où il aurait pu utiliser sa grande expérience de la diplomatie et ses relations. Mais le président Sékou Touré en a décidé autrement. Il s'est peut-être souvenu qu'il avait une formation de juriste. Madame Kadidiatou Diallo Telli, son épouse.
On ne l'a pas consulté. Il a été nommé ministre de la Justice. Bon, en Guinée, à l'époque et aujourd'hui, personne n'est consulté pour un poste. On vous nomme, vous y allez. Et si vous n'y allez pas, vous faites le choix qu'on fait beaucoup d'autres. Et vous fuyez. Bon, Diallo Telli n'avait pas... il n'a pas fui, il ne pouvait pas fuir. C'était contraire à sa personnalité. Il est resté.
Malheureusement pour lui, effectivement, puisque la justice en Guinée, il faut entièrement la réformer. Réécrire le code civil et pénal. Bref, le chantier est immense. Dès l'année suivante, il réorganise de fond en comble la justice sur le plan juridique. Il pense qu'il va enfin donner à la Guinée une justice proche du peuple, plus professionnelle, mieux organisée. Mais ce travail ne sert à rien si le président et ses proches n'en tiennent pas compte. Si les rouages de la machine judiciaire sont court-circuités par les proches et par la police de Sékou Touré. Son poste ministériel, Diallo Telli occupe plusieurs fonctions politiques. Il est membre du comité central du PDG, le Parti démocratique de Guinée. Il est également inspecteur politique du parti dans certaines régions administratives du pays. Mais hormis ses nombreux déplacements à l'intérieur, Diallo Telli ne peut plus quitter la Guinée. Et lorsqu'il exprime le souhait de se rendre à l'étranger pour des raisons médicales, le président Sékou Touré ne lui en donne pas la permission. Une fois au dernier moment, alors qu'il s'apprête à monter dans l'avion pour se rendre à Alger où l'attend son médecin, on lui apprend que sa demande de sortie vient d'être refusée. L'étau commence donc à se resserrer autour de lui. Diallo Telli est désormais prisonnier dans son pays. André Lévin, l'un des partisans du rétablissement des relations avec la France, qui plus tard va être ambassadeur de France en Guinée, très proche de Sékou Touré, raconte une scène à laquelle il a assisté qui illustre le drame que vivait désormais l'ancien secrétaire général de l'OUA.
Une des fois où j'ai vu Diallo Telli avant que je ne sois ambassadeur, c'était en novembre 75. Je reprenais l'avion pour gagner Dakar. C'est un avion d'Aéroflot pour gagner Dakar et puis Paris. Et l'avion était déjà toute porte fermée quand les réacteurs se sont arrêtés, la porte s'est ouverte et Diallo Telli a pénétré dans la carlingue et je me suis dit il prend l'avion inopinément et c'était étonnant parce que lui-même avait déjà dit « on ne me laisse pas partir ». Et en fait, il venait dire bonjour à son fils Tierno, qui partait faire des études, je crois, à Prague. Et après lui avoir dit bonjour, l'avoir embrassé, il est repassé devant le siège où j'étais. Et il m'a dit, vous savez, dans un pays comme la Guinée, on n'est jamais sûr de revoir ses proches. Et quand on peut leur dire au revoir, il faut profiter de l'occasion.
En 1975, les nuages qui planaient depuis 1958 sur les relations entre la France et la Guinée s'éloignent et laissent place à une éclaircie. Après un voyage de Sékou Touré en France pour normaliser tout ceci, André Lévin, l'un des hommes partisans de cette réconciliation, est nommé ambassadeur de France en Guinée.
14 juillet 1975, qui est la date qu'il avait, un bon révolutionnaire, choisi pour normaliser les relations avec la France. Il a organisé un déjeuner où il y avait sur la table un petit drapeau guinéen et un petit drapeau français. Il y avait Diallo Telli dans le tour de table. On était une dizaine. bien que je l'ai déjà connu avant, Sékou Touré a dit, ben voilà, vous connaissez Diallo Telli, il a été le secrétaire général de l'OUA, il est actuellement ministre de la Justice, et un jour il sera secrétaire général de l'ONU.
Il a dit ça.
Il a dit ça. Et Diallo Telli a immédiatement répondu en disant non, 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 Prési, qui était l'appellation avec laquelle on désignait le président, non, non, Prési, j'ai vécu et j'ai travaillé trop longtemps hors de la Guinée, il faut que maintenant je me consacre au développement du pays.
Cette phrase de Sékou Touré sur Diallo Telli, futur secrétaire général de l'ONU, n'est pas innocente. Elle vise à lui faire savoir qu'il est au courant de la démarche qu'il avait entreprise à Addis Ababa auprès de Kurt Waldheim pour éviter de rentrer au pays. Un message qui sonne comme une menace. Surtout qu'une rumeur courait selon laquelle Diallo Telli espérait pouvoir occuper le poste d'ambassadeur. L'ancien secrétaire général de l'OUA à cette période de 1975 est sous pression. Tous ses mouvements sont surveillés. Sékou Touré redoute que l'opposition de l'extérieur puisse prendre contact avec lui. Dans la famille également, on vit dans la peur. Tierno Diallo Telli, son fils aîné.
Votre maman est anxieuse, l'enfant le sent, quel que soit son bas âge. Et chaque fois qu'on était en présence de Sékou Touré, ma mère était absolument anxieuse. Et je sentais, et j'avais peur de lui à cause de ça. Et ça depuis bébé.
Ça veut dire que vous avez toujours cultivé la peur du travail de votre père.
Non, j'ai toujours eu peur pour lui. Il paraît qu'à l'âge de 5 ans, on m'a demandé qu'est-ce qu'il faisait. J'ai répondu qu'il avait des grosses valises et il était tout le temps en avion. Ça, c'était mon impression de ce qu'il faisait à l'âge de 5 ans.
Juillet 1976, Madame Kadidiatou Diallo Telli reçoit un coup de fil de la présidence de la République.
Sékou Touré a téléphoné à 19h et c'est moi qui ai pris le téléphone et je lui ai passé Diallo Telli qui est revenu nous dire. Je suis appelé à la présidence et je lui ai dit, écoute, je ne veux pas que tu manges à la présidence. Je dis parce que personne ne mange là-bas pour des raisons que tout le monde connaît. Et il m'a dit, je ne mangerai pas là-bas, je m'en vais simplement pour un dossier.
Tout le monde connaît, c'est-à-dire on empoisonnait.
Il m'a appelé pour me dire, dîner, moi je dîne ici. Donc, ils ont dîné et... Après ça, il m'a rappelé en me disant « Je pars chez ma sœur, je reviens après. » Il est revenu vers minuit, on n'a pratiquement pas eu le temps de parler. Oui. On a dormi et on est venu le chercher à minuit et demi, une heure.
Quelques instants après ce dîner tardif à la présidence de la République, une jeep de la sûreté guinéenne, avec à bord Siaka Touré et son escorte, viennent amener Diallo Telli. Est-ce qu'avant que ces personnes ne viennent le chercher, il vous a dit, Madame Diallo Telli, ce qui s'était passé, ce qui s'était dit au cours de son dîner avec le président Sékou Touré?
J'ai été informée par ça, par Diop Alassane, à qui Telli a raconté la rencontre. Sékou Touré l'avait appelé, dit-il, pour lui confier une mission. Et quand ils ont dîné, Sékou Touré, n'ayant pas parlé de la mission, Telli lui a demandé. Il était question d'une mission, quelle est cette mission? Et Sékou Touré aurait répondu, Diallo Telli, moi on ne me surprend pas. Et Telli lui aurait demandé, mais président, qui veut te surprendre? Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Il lui a dit simplement, allez, au revoir Telli. Donc Telli est rentré à la maison à minuit, on est venu le chercher à une heure et demie.
L'ancien secrétaire général de l'OUA est enfermé au sinistre camp Boiro où il va passer sa première nuit. L'ex-secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine est désormais dans les mailles du filet de Sékou Touré. Quelques jours après cette arrestation, le président reparle d'un complot visant à l'assassiner. Mais cette fois-ci, et c'est là la nouveauté, les auteurs, les âmes damnées, pour reprendre son expression, n'appartiennent pas à une catégorie socio-professionnelle. ce ne sont ni des officiers, ni des commerçants, ni des hommes politiques. Cette fois, il s'agit de toute une ethnie, les Peuls, qui représentent 40% de la population guinéenne.
La clique des trafiquants, des affameurs du peuple, des bureaucrates malhonnêtes et des individus qui trichent avec la révolution et compromettent le bien-être des masses populaires en s'enrichissant de manière illicite méritent d'être combattus jusqu'à la reconversion des individus à la morale de la révolution.
Dans un discours plein de haine et d'injures, Sékou Touré lance le 22 août 1976 un appel au génocide demandant carrément au peuple guinéen d'exterminer les Peuls. Parce que ceux-ci sont non seulement des étrangers, mais ils sont capables d'orgueil, de racisme et de trahison. Petit assortiment de ce discours du président Sékou Touré.
À Conakry, à cette époque, lorsque 10 voleurs se trouvaient devant un commissaire ou devant un tribunal, l'on comptait au moins 8 ressortissants de la moyenne Guinée. C'est un fait vécu. Et vous pouvez consulter la statistique des condamnés pour vol. Du temps de la colonisation, ils avaient démissionné du camp de la lutte, car ils se comptaient au bout des doigts, les Peuls, jeunes ou vieux intellectuels qui militaient ardemment dans les rangs du Parti démocratique de Guinée. Et très souvent, ceux qui venaient au parti étaient bannis de leur famille, isolés de leurs collègues originaires du Fouta, parce que considérés comme étant à la remorque des étrangers. L'étranger, c'était le soussou, le malinqué, le forestier, les camarades des autres régions de la Guinée, tandis que l'on faisait très bon ménage avec le colonisateur. L'on s'encoquinait avec le colon blanc et l'on se prostituait avec lui.
Ces discours annoncent une violente purge au sein de la population Peul de Guinée. Une majorité des cadres et même des ministres de cette ethnie sont arrêtés. Le docteur Barry Alpha Omar, ministre du domaine des échanges, Dramé Alioune, du plan et statistique, un jeune milicien de 14 ans, instruit par les forces de sécurité, a été arrêté perché sur un arbre avec une arme à la main à proximité de l'Institut Polytechnique de Conakry où Sékou Touré effectue une visite. On lui a fait lire un témoignage où il affirme qu'il a reçu pour instruction de tirer sur le président Sékou Touré le 13 mai 1976. Aussitôt, un commandant, Sori Barry, est arrêté avec plusieurs miliciens pour négligence dans la protection du président. Mais pour le chef de l'État, ce jeune Lamarana Diallo n'est qu'un comparse. Il n'est qu'une première pièce à conviction du complot Peul. Les âmes damnées, selon son expression, sont ailleurs. Il s'agit d'éléments camouflés dans les rangs de la Révolution, et parfois même jusqu'au sommet du parti et de l'État. Tous ceux qui sont arrêtés sont tous ou presque des Peuls. C'est donc quelques jours plus tard qu'intervient l'arrestation de Diallo Telli. Diallo Telli est présenté comme le cerveau de ce complot Peul. Pour lui, c'est le début de la descente aux enfers. Comment va-t-il se tirer de cette situation? Quel est le sort que lui réserve le président Ahmed Sékou Touré? La diète noire ou juste l'éloigné de la scène politique internationale? Et la révolution guinéenne, qui a séduit tout un continent dans tout ça? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée, avec des acteurs. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter les 4 premières parties sur le site du RFI dans la rubrique « Les émissions » ou sur archivesdafrique.com ou simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook Archives d'Afrique, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Merci pour cette confiance. Olivier Raoul, Marjorie Bertin et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.